6-9 de l'été. Pierre Veille sur France Inter.
8h46, c'est la revue de presse avec Virginie Pironon. Bonjour Virginie.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une des journaux ce matin, le statut du Cachemire qui ravive les tensions entre l'Inde et le Pakistan.
Dans un tumulte assourdissant venant des rangs de l'opposition, le ministre de l'Intérieur indien hier a lancé une véritable bombe géopolitique, selon l'expression du Figaro. La fin de l'autonomie du Jammu et Cachemire, territoire que l'Inde et son voisin, le Pakistan, se disputent depuis 72 ans. Les Cachemiriens musulmans majoritaires doute que le gouvernement indien change l'équilibre démographique de la région en encourageant l'installation d'Indiens de confession hindoue. L'Inde crée la surprise, titre les Échos, mais en réalité, les autorités avaient bien préparé leur coup depuis une dizaine de jours. Envoi fin juillet de dizaines de milliers de soldats sur place, évacuation des touristes, arrestation de représentants politiques. Les communications sont coupées. Depuis minuit dimanche, je ne peux plus joindre ma famille, explique un étudiant depuis New Delhi au Figaro. La dernière fois que je leur ai parlé, ils m'ont raconté que les villes avaient été bouclées, que des hélicoptères patrouillaient au-dessus de mon village. Certains disaient que la police locale avait été désarmée par les militaires pour prévenir toute révolte. D'autres craignaient une guerre avec le Pakistan. Et de fait, c'est toute la stabilité régionale qui est menacée, voire au-delà. Analyse de Jean-Luc Racine, directeur émérite de recherche au CNRS dans les Échos. Le Pakistan pourrait désormais être tenté de laisser des groupes djihadistes lancer de nouvelles attaques au Cachemire ou dans de grandes villes indiennes, c'est déjà légion. Mais cela pourrait aussi compliquer la sortie d'Afghanistan des Américains après 18 années de guerre et alors que se tiennent en ce moment des négociations ardues à Doha pour un cessez-le-feu. Washington a besoin d'Islamabad comme intermédiaire avec les talibans. Les décideurs pakistanais ont d'ailleurs pour coutume de le dire, la paix en Afghanistan passe par le Cachemire.
L'Afghanistan justement où les habitants ne croient plus en rien ni personne.
Libération consacre au sujet deux doubles pages. Explosion quotidienne, attentats incessants, les Afghans aujourd'hui rêvent d'exil. Comme Massoud, 22 ans, qui s'est confié à l'envoyé spécial de Libération, Luc Mathieu. Massoud a repris le restaurant familial situé au bout de Chicken Street, en plein centre de Kaboul, depuis que son père a jeté l'éponge. Ça s'est passé le 27 janvier 2018. Une ambulance piégée explose sous les fenêtres du restaurant. C'est un carnage. Plus de 100 morts. Le père de Massoud est grièvement blessé. Une cliente a la tête arrachée. D'autres personnes sont projetées dans la rue par le souffle. Trois semaines plus tard, alors que des ouvriers s'affairaient à la rénovation, il y avait encore des traces de sang au plafond et pendant à un arbre, un lambeau de chair oublié. Aujourd'hui, écrit Luc Mathieu, le désespoir gagne Kaboul. Ses habitants n'attendent rien des discussions de paix relancées samedi au Qatar.
Et en Russie, pendant ce temps, le pouvoir continue à durcir le ton.
À lire dans les colonnes de West France, interview de la défenseure des droits de l'homme, visiteuse de prison, Zoya Svetova. Après les nouvelles arrestations de ce week-end, l'heure n'est plus au dialogue, confie-t-elle au journaliste Paul Gogo. Le pouvoir russe entend tout contrôler et ne veut pas que les opposants aient une tribune dans le système politique. Moscou est la vitrine de la Russie, explique la militante. Si l'opposition accède ici à un mandat local, les autorités ont peur que cela se reproduise en région. Et les inquiétudes sont d'autant plus grandes, et c'est toujours à lire dans West France, que ce samedi, dans les manifestations de l'opposition, est réapparue une figure qui inquiète. Moustache et béret noir, yeux clairs, Sergueï Koussiouk, commandant des aumônes, les forces spéciales russes, est apparu à visage découvert. Il est aujourd'hui recherché par les autorités ukrainiennes pour avoir commis des meurtres en Ukraine et utilisé des méthodes cruelles pour disperser les foules, notamment sur la place Maïdan lors de la révolution ukrainienne en 2013 et 2014. Il y avait eu plus de 80 morts. Sa réapparition, nous dit West France, ne dit rien de bon pour les prochains rassemblements de l'opposition en Russie.
Et autre sujet à la une de l'actualité ce matin, Virginie, cette fois en France, la crise sanitaire provoquée par l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Faut-il mettre, Pierre, Notre-Dame sous cloche, s'interroge ce matin le Parisien aujourd'hui en France, alors que la mairie de Paris doit révéler aujourd'hui de nouveaux résultats de mesures de contamination au plomb. Un collectif d'associations et de syndicats réclame le confinement du chantier de la cathédrale. On ne verra plus les tours, mais on mettra les riverains à l'abri, explique Annie Thébaumoni, sociologue de la santé. Hypothèse rejetée par la mairie de Paris, disproportionnée pour une source anonyme du ministère de la Culture. Quelle que soit la solution retenue, écrit le parisien. La dépollution de la cathédrale nécessitera des moyens considérables. La construction de Notre-Dame fut un chantier pharaonique. Sa reconstruction va l'être aussi.
On poursuit cette revue de presse, Virginie, avec le mouvement des Gilets jaunes et cette question, la mobilisation a-t-elle du plomb dans l'aile?
Comment passer l'été? Question à la une du quotidien La Croix ce matin. La Croix qui nous emmène à Fontainebleau, au sud-est de Paris, où pour convaincre les irréductibles, une vingtaine de personnes ont décidé d'ôter la chasuble. Angélique était vendredi sur le marché pour tracter contre la privatisation d'ADP, mais sans son gilet jaune, ça rassure les gens, explique-t-elle. L'image a tellement été ternie. Plus nombreux sont encore ceux qui ont définitivement remisé le gilet jaune, comme Émilie. Mon engagement menaçait ma vie professionnelle, dit-elle. Je risquais mon intégrité physique dans des manifs de plus en plus violentes. J'ai fini par me dire que ça ne servait plus à rien de se battre. Mais si la détermination des gilets jaunes en cette période estivale est bel et bien entamée, poursuit La Croix, de nouvelles formes d'action sont en train d'émerger et la rentrée s'annonce risquée, sans parler du premier anniversaire du mouvement le 17 novembre. De plus en plus d'associations citoyennes se constituent en liste pour les municipales de mars. Et un mot revient de plus en plus souvent, le municipalisme, en écho aux systèmes politiques locaux expérimentés par des villes espagnoles depuis 2015.
Direction le grand large à présent et cet avertissement, en mer aussi, la consommation d'alcool peut être sanctionnée.
Et c'est à la une du Télégramme ce matin, alcool à la barre, ce que dit la loi. C'est toujours bon de le rappeler. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un accident dans le port de Concarneau a fait un mort et trois blessés. Le pilote du bateau avait trop bu, navigué trop vite, 25 nœuds, soit près de 50 km/h au lieu des 5 nœuds réglementaires. Depuis le 1er janvier 2018, rappelle le quotidien, le taux d'alcool est limité sur les bateaux de pêche et de la marine marchande à 0,5 g par litre de sang. Mais les plaisanciers ne sont pas concernés. Pour eux, c'est au niveau de l'assurance que la sanction tombe. Au-delà des 0,5 g, l'assureur peut refuser de rembourser les frais de secours, les indemnités versées aux tiers et les dégâts matériels. Ça peut vite faire beaucoup. Alors, rappelle le quotidien breton, on réfléchit à deux fois avant d'embarquer le cubit rouge et autres bouteilles pour une virée sur les îles. La Bretagne, c'est toujours dans le Télégramme où l'ensoleillement a été exceptionnel ce mois de juillet, mais ça va se gâter au mois d'août. Ça sera plutôt dans les normes, je lis, un peu plus vieux mais pas trop. Pas d'inquiétude, si vous prévoyez quand même des vacances en Bretagne, je vous conseille ce matin de jeter un œil au site du Télégramme qui publie juste pour vous une carte interactive de 500 activités à pratiquer sous la pluie. Ça pourra peut-être vous servir en vous souhaitant de très bonnes vacances.
C'était la revue de presse avec Virginie Pironon. À demain matin, Virginie.
À demain.
12h, 13h, le débat de midi. Nadia Adam est avec nous. Bonjour Nadia.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Alors dans le débat de midi, aujourd'hui, vous allez questionner la quête d'authenticité,
ouais,
j'ai réussi
ça.
À le dire, voilà, du vrai, c'est très actuel, et que certains décrivent comme un marché et un leurre.
La vie moderne, c'est Jean Gabin plus le wifi et sans le gluten. C'est une formule qui est assez efficace, qui est employée par l'un de mes invités, c'est Jean-Laurent Casselli, auteur de l'enquête No Fake, une contre-histoire de l'authenticité publiée aux éditions Arré. Et c'est une formule qu'il emploie pour décrire cette épidémie du rétro-factice qui touche ce qu'on appelle les millennials. Alors les millennials, c'est cette catégorie de personnes qui a eu le culot de naître après vous et moi, Pierre, des jeunes, et qui définirait aujourd'hui notre rapport à l'identité à travers des pratiques culturelles, artistiques et culinaires recyclées. Pour être concret, il plébiscite le marché du vrai, c'est la mode du vrai off-maillot, de la table en formica, des vacances authentiques qui nous feraient rencontrer des vrais gens, l'envie d'emménager dans un quartier resté dans son jus, mais dont on espère qu'il va vite accueillir une salle de yoga et un Starbucks, on mange pas des pâtes, on fait la queue 3 heures pour manger de la vraie carbonara touillée par un vrai Italien. À 22 euros, ça fait cher la tagliatelle. On part pas en vacances en Italie, on fait les pouilles, c'est comme ça qu'on dit, dans un Airbnb vétuste mais tellement typique. Comment expliquer qu'une jeunesse urbaine qui a grandi dans la globalisation ait soif de blanquettes de veau, de folklore néo-identitaire et de Napa Caro? À quelle angoisse collective est-ce que ça répond, cette quête du vrai? C'est donc le sujet de mon débat de midi.